une fabrique médiatique avec un invité unique. Au revoir Charles Berling. Pour regarder ce que le coronavirus et ses effets collatéraux, le confinement et la crise économique ont fait aux médias, dans quel état sortent la presse et les médias de ce début d'année exceptionnel? Pour cette dernière fabrique médiatique de la saison, nous avons convié l'économiste spécialiste des médias, Julia Cagé. Bonjour Julia Cagé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie à Sciences Po Paris. Vous êtes l'autrice en 2015 de ce livre dont on continue de parler puisque il n'a pas fini d'être dans l'actualité. Sauver les médias, il s'intitule ce livre Au Seuil. On va commencer par un certain nombre d'actualités récentes. Paris-Normandie, racheté par un groupe belge. Disparition de Gratia. Rachat de France Antillais ce matin par Xavier Niel. Faillite du groupe Prestalis qui est le principal distributeur de journaux français. Difficultés économiques aux Parisiens et à l'équipe, vague de départ à l'Express. On peut dire que déjà fortement touché en mars, la diffusion totale de la presse quotidienne nationale a baissé de près de 6% en avril par rapport à l'année dernière. Et puis que la presse, donc, qui était déjà en crise avant le confinement, est aggravée par ce qui s'est passé. Est-ce que, si je vous pose une question un peu choc, comme le monde d'après sera-t-il sans presse, vous répondez quand même oui? J'espère que non, Julia Cagé.
Je réponds, faisons en sorte que ça ne soit pas le cas. Faisons en sorte que ça ne soit pas le cas. Si on ne fait rien aujourd'hui et qu'on regarde ce qui est en train de se passer, on risque d'avoir un monde d'après, je ne dirais pas sans presse en général, mais sans presse au niveau local. Ça, c'est quand même fortement probable parce qu'aujourd'hui, on voit bien, notamment au niveau des grands titres de presse quotidienne, régionale, départementale, locale, qu'on a un vrai problème de modèle économique. On a aussi les grands hebdomadaires, hein, vous mentionnez l'Express, bon, il y a eu la fin de l'édition papier de Gradia, et les quotidiens nationaux qui souffrent. Mais ce qui m'effraie le plus pour le très long terme, c'est notamment le cas de la presse locale. Ensuite, c'est pas une fatalité, et je pense que si on laisse mourir un certain nombre de titres, le réveil demain va être extrêmement douloureux et donc il faut faire en sorte que ces titres survivent à cette crise qui, d'une certaine manière, pour la presse comme pour le reste de l'économie, reste une crise conjoncturelle. Donc ne la transformons pas en crise complètement structurelle pour ce secteur d'activité.
Mais Julia Cagé, en quoi le coronavirus a-t-il affecté l'industrie des médias plus largement, puisque même il y a un plan social à BFM et à RMC. Restons peut-être, si vous voulez, sur la presse. Mais comment expliquer cette situation qui peut paraître complètement paradoxal, parce que dans le même temps, on a, pendant cette période du confinement et de la crise sanitaire, consommé beaucoup plus d'informations.
Oui, c'est vrai. Et tout à l'heure, vous mentionniez la baisse de la distribution papier de la presse. Mais par contre, si vous prenez les abonnements numériques, y compris, donc pas simplement la fréquentation des sites, hein, si vous prenez la fréquentation payante des sites, on a eu un petit retour de l'amour entre les lecteurs et les médias. Et les lecteurs ont été à nouveau prêts à payer pour l'information qu'ils consomment. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi des bonnes nouvelles.
Ça veut dire que les gens ont quand même moins acheté de journaux et que... Les kiosques étaient...
Ils ont un peu moins acheté en kiosque, notamment parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de kiosques. Puis il y avait la problématique du confinement, il y avait la peur de sortir, mais les gens se sont beaucoup abonnés en ligne, ce qui est quand même une excellente chose. Ensuite, pourquoi le coronavirus représente une telle crise pour la presse? Parce qu'on a une presse qui est, j'ai envie de le dire, encore trop fortement dépendante des revenus publicitaires et qu'avec la crise du coronavirus, c'est le marché publicitaire qui s'est entièrement effondré. Là, si vous prenez, vous donniez l'exemple de BFM, RMC, si vous prenez le groupe Next Radio TV, bon, clairement, ils n'ont pas subi une baisse de leur audience pendant le confinement. Au contraire. Par contre, la plus grande partie de leurs revenus, voire la majorité, ce sont les revenus publicitaires qui se sont effondrés, puisque quand vous avez l'économie à l'arrêt, les annonceurs ne veulent plus annoncer, et donc ils perdent une source majeure de revenus.
Ça veut dire que ceux qui s'en sortent moins bien sont ceux qui n'ont pas pris le tournant numérique. Vous citiez la presse locale, c'est le problème de la PQR, de la presse quotidienne régionale notamment?
Ben, il y a un double problème pour la PQR. Il y a l'absence d'investissement suffisant au cours des dernières années, voire des dernières décennies, dans le numérique et dans le fait d'avoir des sites internet. Hein. Si vous comparez les sites internet d'un certain nombre de titres de PQR par rapport à ceux d'un certain nombre de titres en national, il y a quand même une vraie différence d'investissement. Ensuite, ça s'explique par différentes raisons, hein, et ça s'explique notamment par les caractéristiques de l'audience. Aujourd'hui, l'audience de la presse locale est quand même plus âgée que l'audience de la presse nationale en moyenne, ce qui veut dire qu'elle a aussi davantage l'habitude de consommer du papier, elle est plus attachée au papier, elle va aller moins sur Internet. Donc il y a une certaine rationalité, on va dire, dans ce défaut d'investissement dans le numérique. Il ne s'agit pas de montrer du doigt tel ou tel. Ensuite, ce dont vraiment elle souffre, pour le coup, la presse quotidienne régionale, c'est l'effondrement de la publicité couplée à l'effondrement des petites annonces, sachant que, désolé, les termes ne sont pas très jolis, mais pour la presse locale, il y a une véritable problématique de taille de marché. Vous avez un marché qui, par définition, est un marché local, donc qui est un marché relativement petit. Et sur un marché d'aussi petite taille, malheureusement, on ne sait pas vraiment encore aujourd'hui, dans les modèles purement à but lucratif dans lesquels on a pris l'habitude d'évoluer, on ne sait pas produire une information au niveau local. Là où la presse nationale a quand même un marché qui est plus grand, puisque c'est toute la France, voire d'autres marchés qui peuvent s'ouvrir à elle, par exemple l'Afrique francophone. Et du coup, ce qu'il faut réussir à penser, c'est un modèle de soutien à la presse locale. Il faut réussir à penser l'intervention optimale de l'État. Hein, l'information, c'est un bien public. On peut pas laisser mourir la presse locale. Si on laisse mourir la presse locale, on laisse mourir un petit bout de notre démocratie, voire un très grand bout de notre démocratie. Donc il faut penser ça. Et cette intervention publique doit aussi venir avec une véritable réflexion sur les modèles de propriété et de gouvernance des journaux. C'est pour ça que moi, je défends l'idée que l'information est un bien public, mais je défends aussi cette idée qui paraissait un peu naïve ou un peu folle au moment de sauver les médias, de sociétés de médias à but non lucratif, où les gens disaient mais non, pourquoi il faudrait penser les médias de manière non lucrative. Et puis de plus en plus, on en vient à cette idée-là, parce qu'on voit bien que si on laisse les médias dans une logique purement de marché, eh bien on a des médias qui souffrent, on a des journalistes qui sont licenciés et on a des médias qui ferment également.
Julia Cagé, vous diriez que cette crise doit être le moment d'une radicale revue de toutes les pratiques?
Oui, je pense que c'est l'occasion, c'est sans doute la dernière occasion. Il faut pas remettre des rustines. Je vais vous donner un exemple. On discute aujourd'hui des différentes manières d'intervention de l'État dans la presse, quoi qu'on n'en discute pas suffisamment. Il y a une proposition qui a été faite qui consiste à dire « Ah, il faut un crédit d'impôt sur les dépenses publicitaires ». Je pense que c'est une mauvaise solution. Pourquoi ? Parce que si vous regardez l'évolution du marché au cours des 30 ou 40 dernières années, vous voyez une baisse systémique des revenus publicitaires, et donc on voit bien que la pub ne peut pas être le modèle de développement des médias sur le long terme, puisqu'elle a vocation à diminuer dans les prochaines années. Donc il faut penser d'autres formes d'intervention qui permettent de changer de modèle. Un modèle qui serait un meilleur modèle demain pour les médias, c'est un modèle qui donnerait plus de poids aux journalistes et aux salariés dans l'actionnariat de leurs médias, plus de poids aussi au lecteur. Moi, je pense que c'est un modèle à but non lucratif, donc avec des médias qui pourraient prendre la forme de fondation. Et donc, on pourrait avoir une forme d'intervention beaucoup plus saine de l'État qui viendrait, par exemple, doubler, donc inciter les lecteurs à investir dans leurs médias, non seulement à s'abonner, mais à aussi devenir actionnaire de leurs médias. Et l'État pourrait proposer, si un lecteur investit 100 euros dans son média, bien de doubler, d'abonder ce don et d'investir également 100 euros. Ça permettrait d'avoir un modèle alternatif, nouveau, mieux adapté au 21e siècle, qui donnerait plus de poids au lecteur et qui permettrait aussi de reconstruire une relation de confiance entre les lecteurs et leurs médias.
Et c'est aussi la présidente de la Société des lecteurs du Monde qui s'exprime, Julia Cagé. Vous parliez de l'État précisément. L'État est venu au secours de Presstalis, qui avait été déclaré en cessation de paiement le 20 avril, en lui accordant un prêt de 35 millions d'euros. Et puis de l'autre côté, c'est un particulier, c'est Xavier Niel, qui vole au secours du quotidien France Antilles, qui avait été placé en janvier en liquidation judiciaire, ou encore de Nice Matin. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, ou est-ce que vous préféreriez quand même voir ces titres de presse soutenus justement par l'État, encore une fois, voire par les journalistes eux-mêmes ou les citoyens? Ou bien c'est bien parce que on est obligé malgré tout de renforcer la concentration, parce que seuls des journaux sont quand même menacés.
C'est bien sur le très court terme, c'est mieux ça que voir Nice Matin et France Antilles fermer leurs portes. C'est pas bien sur le modèle de développement de moyen et de long terme pour ces titres, où je préférerais des formes de reprise de ces titres alternatives. Prenons l'exemple de Nice Matin. Nice Matin, c'est un journal qui avait innové au début des années 2010 en mettant en place une coopérative, il y avait eu une très grande campagne de crowdfunding où vous aviez tous les habitants de la région qui avaient donné, donc pendant cette campagne de crowdfunding, certains avaient donné 5 euros, d'autres 10, d'autres 100 en fonction de leurs moyens, pour permettre aux salariés de reprendre leur titre. Et ça a été une très belle expérience. Cette expérience, elle n'a pas été particulièrement valorisée, elle n'a pas été particulièrement soutenue par l'État. L'État n'a pas soutenu cette forme de développement plutôt qu'une autre forme de développement. Il n'a pas appuyé les salariés et les lecteurs de Nice Matin quand ils ont décidé de reprendre ensemble le journal. Et du coup, le journal aujourd'hui souffre encore économiquement. Moi, je pense que c'est plutôt vers ce genre de modèle qu'il faut tendre. Le modèle des milliardaires ou des industriels possèdent des médias, c'est vraiment un modèle par défaut et c'est pas un modèle qui est très sain pour la démocratie, où l'on fait dépendre la bonne santé de la presse d'un pays tout entier, de la générosité entre guillemets ou de la bonne volonté de 5 ou 6 individus. C'est pas ça la démocratie. Ça serait déjà problématique dans d'autres secteurs d'activité. C'est extrêmement problématique dans un secteur aussi sensible que le secteur des médias. Et puis plus largement, au-delà de la question des médias eux-mêmes, où je pense qu'il faut démocratiser leur gouvernance et donner plus de poids aux salariés, il y a une véritable problématique pour le monde d'après, puisque vous avez entamé sur le monde d'après, sur le fait de donner plus de poids en général aux salariés dans la prise de décision économique et politique à l'intérieur de leurs entreprises. On avait signé avec un certain nombre de collègues, Dominique Méda, Isabelle Ferreras, beaucoup de chercheurs et surtout beaucoup de chercheuses il y a quelques semaines, une tribune manifeste qui a été publiée dans plus de 40 pays dans le monde, qui s'appelle « Démocratiser le travail ». Et cette idée de démocratiser le travail, c'est l'idée de faire confiance aux salariés et de considérer qu'il faut mettre les salariés autour de la table avec les actionnaires pour prendre les bonnes décisions pour le futur. Ça vaut particulièrement pour les médias, parce que pour les médias, il y a une urgence démocratique, mais je pense qu'il faut aussi qu'on ait cette réflexion beaucoup plus largement. Et il ne faut pas avoir peur des lecteurs. Pour les médias, ça serait quand même paradoxal d'avoir peur de donner un peu plus de voix à leurs lecteurs. Il ne faut pas avoir peur des salariés, il ne faut pas avoir peur des journalistes. Ce ne sont pas des actionnaires plus irrationnels que ceux qui auraient beaucoup d'argent, bien au contraire. Et je pense que c'est vers là qu'il faut qu'on tende pour penser le futur des médias.
Merci beaucoup, Julia Cagé. On voit qu'effectivement, le Sauver les médias, ce livre qui date de 2015, est encore bien en vigueur. Il est évidemment dans toutes les librairies. Sauver les médias, c'est un livre que vous avez publié aux éditions du Seuil. Un grand merci. Et bien sûr, nous suivons merci. Toutes ces questions dans la fabrique médiatique, même si, en l'occurrence, c'est la dernière de la saison. On se retrouve après le journal de 8h en compagnie de Jérôme Fourquet.